Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Ndeni Kamara.
Grand plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre notre journal, dont voici d'abord les titres. Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu ce lundi 12 janvier 2026 pour une visite de travail à l'invitation du président du Conseil du Togo et médiateur désigné de l'Union africaine dans la crise qui oppose le Rwanda à la RDC. La semaine dernière, le chef de l'État congolais avait effectué deux visites de travail à Luanda en Angola où il s'est entretenu avec son homologue angolais João Lourenço. Au moins 500 enfants dans la ville de Beni tentent de poursuivre leur scolarité dans des conditions difficiles, car les toitures de leur salle de classe ont été emportées vendredi après-midi par une forte pluie accompagnée de vents violents. Face à cette situation, les responsables de ces écoles conventionnées catholiques lancent un appel à l'aide. La ville de Chimbulu, dans le Kasaï central, est électrifiée pour la première fois depuis son existence grâce à l'ANSER. Financé par le gouvernement congolais, ce projet de deux centrales photovoltaïques d'une capacité totale de 200 kW desservent la ville en électricité. Pour en parler, nous recevons Alexis Moulomba, coordonnateur du pôle de l'ANSER pour le Kasaï central. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ce journal part de Lomé au Togo, où le président de la République s'est rendu ce lundi 12 janvier 2026 pour une visite de travail à l'invitation du président du Conseil du Togo et médiateur désigné de l'Union africaine dans la crise qui oppose le Rwanda à la RDC. Selon les comptes X de la présidence congolaise, l'entretien entre Faure Gnassingbé et Yadema et Félix-Antoine Tshisekedi qui a porté sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. La semaine dernière, le président de la République avait effectué deux visites de travail à Luanda en Angola, où il s'est entretenu avec son homologue angolais, João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, toujours sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Pendant ces temps, au Nord Kivu, des violents combats ont opposé toute la matinée d'hier lundi les rebelles AFC M23 aux combattants Wazalendo du groupe CMC dans plusieurs villages du groupement de Bukombo en territoire de Rutshuru. Selon des sources locales, les affrontements ont débuté à Bumbasha, à quelques kilomètres de Mweso, avant de s'étendre vers Karimbi et Chaemba. Pour ces sources, ceci a provoqué la fuite des centaines d'habitants qui se sont dirigés vers des villages voisins ainsi que vers le centre de Mweso, en territoire voisin de Masisi, où ils ont trouvé refuge dans des églises et des écoles. Depuis plusieurs mois, cette zone située à cheval entre les territoires de Masisi, Walikale et Rutshuru reste hautement instable en raison des confrontations récurrentes entre les rebelles AFC M23 et divers groupes Wazalendo. Au Nord Kivu, sous un soleil brûlant et parfois sous la menace de la pluie, au moins 500 enfants tentent de poursuivre leur scolarité dans des conditions précaires dans la ville de Beni. Les toitures de salles de classe des écoles primaires Mbene et Kilewe ainsi que de l'Institut Sainte-Thérèse et Davila ont été emportées vendredi après-midi par une pluie violente accompagnée de vents forts. Face à cette situation, les responsables de ces écoles conventionnées catholiques lancent un appel à l'assistance afin de permettre aux élèves d'étudier dans des conditions acceptables. Martial Papi Moukeba a visité ces établissements. Voici son reportage.
À l'école primaire de Mbene, les toitures des quatre salles de classe ont été emportées par les vents. Ici, au moins 280 élèves étudient soit à la Belle Étoile, soit dans des salles de classe fusionnées. Le directeur de l'école, Claude Zitone Sibamwenda, évoque des conditions difficiles.
Les enfants sont quand même en classe, mais à la Belle Étoile, nous avons le soleil, demain on peut avoir la pluie. Dans l'entretemps, nous fusionnons les classes et puis avec cette fusion-là, les conditions sont compliquées. D'abord, nous avons en moyenne 70 élèves par classe. Si on doit fusionner 70 par 2, ça fait une affaire de 140 élèves par classe.
La même situation s'observe à l'école primaire Kilewe, où les toitures des deux salles de classe ont été emportées, affectant au moins 120 élèves. À l'Institut Sainte-Thérèse d'Avila, des salles de classe ainsi que les bureaux administratifs ont été touchés, impactant 132 élèves. Le préfet des études, Kakou Lejean, décrit la situation.
Les conditions sont plus que graves parce que les élèves étudient exposés à toutes les intempéries.
Les responsables de ces écoles appellent à une assistance urgente pour la réhabilitation des salles de classe endommagées. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, cependant, alors que plusieurs écoles du territoire de Kailo sont en grève, une centaine d'établissements viennent de bénéficier d'un appui matériel. Certaines ont reçu des fournitures des bureaux, d'autres des tôles. Cette dotation provient du député national Amissi Patrick Loupia, qui affirme vouloir soutenir ces écoles confrontées à des difficultés de fonctionnement afin d'assurer une meilleure prise en charge des apprenants. Florence Kizalunga a assisté à cette cérémonie. Voici son reportage.
Pour les bénéficiaires, ces fournitures et ces tôles arrivent à point nommé dans un contexte où les enseignants ne sont pas rémunérés et peinent à offrir un cadre d'apprentissage adéquat. Le responsable de l'école primaire Lunganga à Oléa, qui a reçu des tôles, exprime sa gratitude.
Nous remercions l'honorable Lupia d'avoir nous donné des tôles pour la construction de notre école, parce que ici chez nous, beaucoup des écoles sont construites en paille.
Un sentiment partagé par les parents, comme l'explique Masengo Mwenyemali, président du comité des parents.
Pour nous parents, c'est une joie d'avoir reçu ces tôles. Nos enfants souffraient des intempéries et allaient souvent en forêt couper des feuilles. Aujourd'hui, nous sommes heureux car ils vont pouvoir étudier dans de bonnes conditions.
Pour les donateurs, Patrick Loupia, cette action s'inscrit dans sa volonté de contribuer à l'amélioration de la formation des enfants congolais.
Vous savez, les écoles ont des problèmes, les chefs d'établissement ont des problèmes, des frais de fonctionnement. Comme ils venaient des vacances, ils n'avaient pas encore les fonds pour le fonctionnement de leurs écoles. Et alors, nous avons pallié cela en attendant que ces chefs d'établissement aient les différents frais pour leur fonctionnement.
Outre les écoles, le député national de Kailo a également appuyé certaines structures sanitaires en leur fournissant du matériel médical. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
En Ituri, une vingtaine de journalistes et des leaders de la jeunesse de Bunia et de Kasseni au bord du lac Albert suivent depuis ce lundi à Bunia une formation à la lutte contre la désinformation et à l'écriture journalistique. Cette session est organisée par la section des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO afin de sensibiliser les participants aux dangers de cette pratique, aux conséquences souvent graves dans la société. Conscients de leurs responsabilités, les participants se sont engagés à faire de la lutte contre la désinformation, leur cheval de bataille. Isaac Remoyope pour plus de détails.
Les participants ont été formés aux notions de la désinformation, ses causes, ses manifestations, ses conséquences, ainsi qu'aux outils et stratégies pour y faire face. Pour les structures de jeunesse, cette formation constitue un atout majeur pour mieux encadrer leurs membres et prévenir la manipulation de l'opinion, souvent à l'origine des troubles à l'ordre public, des violences et des discours de haine. Joël Madira du conseil urbain de la jeunesse de Bunia.
Je peux descendre sur terrain et puis voir comment sensibiliser d'autres personnes pour notre province est toujours dans des situations compliquée. Les camps de désinformation comme ça, ça peut soulever la population. Et
du côté des médias, cette formation permet de renforcer la vérification des faits avant leur diffusion, mais aussi de corriger certaines pratiques professionnelles qui, par le passé, ont contribué à exacerber les conflits dans leurs milieux respectifs. Christine Ngiani de la radio Tempête du Lac à Kasseni.
Il y avait des sources qui nous donnaient des informations sans faire même des recherches. On se mettait directement au micro et on pensait des fonds de formation pour notre communauté.
Pour d'autres participants, cette formation les outille davantage pour lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux, considérés comme l'un des plus grands défis actuels. À ces jours, environ 1000 journalistes, étudiants et membres d'autres couches de la population ont déjà bénéficié de ces formations organisées par la MONUSCO. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Province du Tanganyika, arrestation du journaliste Isidore Kachouloui, du territoire de Moba sur ordre du Conseil de sécurité locale. D'après le commandant des FARDC, forces terrestres et Moba. Le journaliste a été arrêté pour avoir diffusé des propos mensongers dans un de ses reportages en citant un militaire de FARDC comme étant l'auteur d'un coup de feu qui a blessé une femme. Dans une déclaration ce lundi, le président de l'UNPC sous section du Tanganyika annonce qu'il a pris langue avec les autorités de Moba pour une éventuelle libération du journaliste. Mathias Mukalovera est au micro de Paul Monanga.
Isidore Kachulwe est un journaliste reconnu. Il est membre de l'UNPC, détenant sa carte de presse. Il a été interpellé depuis le 8 janvier après avoir publié un reportage sur l'événement qui s'était déroulé à Kirungu le 1er janvier. Une jeune dame qui a été victime d'une balle à la jambe par un élément égaré des forces armées. C'est après avoir réalisé son reportage que les autorités contactées après disent que Isidore a extrapolé jusqu'à citer des sources inexistantes, des sources qui n'étaient pas concordes en rapport avec l'événement. Nous avons eu à contacter les autorités sur place à Moba et on nous avait relevé cette irrégularité en rapport avec le dérapage dont est accusé les journalistes. Alors on dit qu'il a eu à citer des sources non concordantes en indexant un sergent des forces armées dans un dossier qui n'est pas réellement auteur. Nous avons été très heureux parce que nous avons reçu une écoute particulière et les autorités nous ont promis qu'après cette action disciplinaire, le confrère serait libéré dans le deux matins. L'UNPC remercie en tout cas les autorités de Moba pour cette écoute et ce sens de collaboration.
Autre chose à présent, le Bac Kalelu, principal point de passage entre la chefferie de Bakwa-Mulumba dans la province de Lomami et celle de Bakwa-Kalonji au Kasaï oriental, se trouve dans un état de détérioration avancé. Face à cette situation, riverains et voyageurs tirent la sonnette d'alarme redoutant un accident majeur en l'absence des mesures urgentes. Des explications avec Esther Ndalafina.
Le bac qui opère sur la rivière Kalelu se détériore de plus en plus. Une partie du bac est presque trempée dans l'eau de la rivière qui s'infiltre dans les chambres et rend la traversée périlleuse pour les nombreux usagers qui empruntent quotidiennement cette voie. Explication.
Si vous avez constaté, le bac s'est enfoncé un peu de plus en plus parce que c'est troué un peu en bas et c'est trop risqué. Et si le bac a accumulé beaucoup d'eau et comprenait un véhicule qui pèse un peu, le risque est élevé.
Face à cette situation, les riverains et les voyageurs tirent la sonnette d'alarme, redoutant un accident majeur si aucune mesure n'est prise. Un motocycliste mène un plaidoyer auprès des autorités.
Nous demandons au gouvernement de nous aider avec les matériaux pour l'entretien du bac en attendant l'érection du pont.
Contactez le grand chef de la chefferie de Bakwa-Kalonji met en cause la gestion du bac.
Les deux gouverneurs ont arrêté notre système. Ça a été fait par les Nabel. Comment le bac doit tomber en panne?
Signalons que le bac Kalelu a été construit et mis en service par Enabel, l'agence belge de coopération internationale. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Un mot sur la littérature avant d'aller plus loin. Basé en Suède, l'écrivain congolais Christian Lonsa plaide pour l'implication de tous dans la quête du bien collectif. Dans son roman intitulé Zou Congo, publié aux éditions L'Aveyron à Paris, il estime que chacun doit jouer sa partition dans la recherche de l'intérêt commun en mettant l'accent sur l'unité et la cohésion pour une vie harmonieuse. Cet ouvrage de 318 pages rend hommage aux familles congolaises exilées, soulignant leur résilience et leur volonté de préserver leur héritage. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
À travers ses romans, Christian Lonsa relate l'histoire d'un homme en quête d'identité, mêlant les souvenirs et l'héritage de la RDC à l'expérience de l'exil. Ses livres offrent une réflexion sur la transmission intergénérationnelle des traumatismes et des richesses culturelles. Écrit avec une combinaison de récits historiques et fiction romantesque, Zou Congo est un hommage aux familles congolaises exilées, mettant en lumière leur résilience et leur désir de préserver leur héritage. Cet ouvrage constitue également une invitation à comprendre et à valoriser les racines et les histoires qui façonnent les individus et les communautés. Dans ses romans, Christian Lonsa écrit, je cite, « Il est important, pendant ton pèlerinage sur terre, de bien jouer ton rôle en partageant et en transmettant aux autres la foi, l'espérance que tu as pour ton peuple. Mais à découvrir ces choses et avec le temps, d'autres chercheront à en prendre connaissance et la lumière éclatera. » Fin de citation. À la croisée de l'histoire collective et du destin individuel, ses romans est une ode à la résilience et à la force invisible des racines.
Actualité internationale.
Au Mali, 3 sites industriels ont été attaqués le 11 janvier 2026 au petit matin dans le cercle de Bafoula B, région de Kayes, dans le sud-ouest du Mali. Ces 3 sites avaient déjà été visités en juillet 2025 par les djihadistes du Nîmes liés à Al-Qaïda qui, en plus de l'embargo décrété sur les importations de carburant, attaquent régulièrement des usines et des mines pour affaiblir l'économie et le régime malien. La célèbre actrice nigérienne Chimamanda Ngozi Adichie, frappée par une dame alors qu'elle était à Lagos pour la période de Noël. L'un de ses deux jumeaux, âgé de 21 mois, est mort à Lagos après une brève maladie. Mais l'écrivaine, connue notamment pour ses romans Americana ou L'autre moitié du soleil, accuse l'hôpital privé où son fils a été pris en charge de négligence. Un drame qui touche les Nigérians confrontés à un système de santé défaillant.
L'invité.
La ville de Chimbulu dans le Kasaï central est électrifiée pour la première fois depuis son existence grâce à l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre. Financé par le gouvernement congolais, ces projets de deux centrales photovoltaïques d'une capacité totale de 200 kW desservent la ville en électricité. En dehors de l'éclairage public, les ménages en sont aussi bénéficiaires. Pour en parler, nous recevons Alexis Molomba, coordonnateur de poule de lancers pour les Grands Kassai. Il s'entretient avec André Katinde Ngalamulume.
Monsieur Alexis Mulumba Mubadiate, bonjour.
Bonjour.
Nous avons appris de l'électrification de la ville de Chimbulu. C'est dans le cadre de quel projet?
Le projet de la ville de Chimbulu fait partie de ce que nous avions appelé à l'époque le PIP, c'est-à-dire le projet d'investissement prioritaire, qui ont été lancés par ANSER dans les Grands Kassai depuis 2022, entièrement financés par l'État congolais, qui consiste à construire des microcentrales photovoltaïques.
Quelle est la capacité de ces courants que vous avez donné à la ville de Chimbulu?
Le projet en tout pour Chimbulu fait un total de 200 kW.
En dehors de l'éclairage public qu'on a vu à Chimbulu, est-ce que ces courants peuvent être utilisés par la population, par exemple dans deux ménages?
Oui, vous arrivez à point nommé parce que l'éclairage public faisait partie de notre première étape d'implémentation du projet. Donc on avait commencé par l'éclairage public, comme vous pouvez le comprendre. Ce sont des lampadaires solaires autonomes qui ne dépendent pas d'un réseau électrique. Et la deuxième phase consistait à finir la construction des centrales. Et qui dit centrale, dit l'électrification aussi bien des ménages que des activités à usage productif. Donc la population pourra y bénéficier pour les activités domestiques et voire même les activités à usage productif. Le lancement de la deuxième phase a commencé par éclairer certains bâtiments qui ont bénéficié déjà du courant parce qu'ils avaient mis à jour leurs installations électriques. C'est ça la condition en fait. Nous apportons le projet, c'est à la population de mettre à jour des installations électriques qui doivent respecter certaines normes pour pouvoir être connectées. Et il y a certains ménages ou certains bâtiments, que ce soit public ou privé, qui ont déjà vu l'électricité être connectée à leur portée. Au moment où je vous parle, l'entreprise est en train de déployer un certain nombre de compteurs pour pouvoir connecter encore un nombre de ménages qui seront les ménages témoins pendant la période d'essai de la centrale.
Vous venez de dire qu'il y a deux ménages qui ont répondu aux critères pour recevoir le courant. Comment est-ce que les gens qui sont dans des milieux tels que Chimbulu peuvent avoir ces conditions? Ou bien c'est ANSER qui leur donne tous les moyens possibles, mais ils payent?
ANSER apporte son expertise à travers l'entreprise qui est choisie pour construire la centrale. Et nous restons des conseillers pour ces ménages-là. Mais encore une fois, la prise en charge pour ces installations ne relève pas de la responsabilité des ANSER.
Qui doit avoir ces courants, à quel prix et quelles sont les conditions?
Ce courant est ouvert à tout le monde. Maintenant, pour ce qui concerne l'accessibilité sur le plan financier, ANSER s'emploie à s'impliquer pour que le coût de l'énergie soit le plus abordable possible.
Monsieur Alexis, dites-nous combien d'heures vous donnez ces courants à la population pour le ménage?
Merci beaucoup. Ça aussi, c'est une très bonne question parce que notre population a été habituée à un système de délestage et ce n'est pas les principes poursuivis par ANSER. Ce sont des centrales qui doivent fonctionner 24 heures sur 24. La période d'essai, elle sera gratuite parce que nous devons éprouver cette centrale.
Et cette période est de combien de jours, combien de mois?
Elle devra être la plus courte possible pour ne pas demeurer dans la gratuité qui n'assure nullement les bénéficiaires, encore moins les gestionnaires de la centrale. Là, je dois nuancer. Je ne parlerai pas en termes de mois, mais en termes de jours, entre 45 et 60 jours maximum.
J'allais l'oublier. Là où il y a du courant, il y a toujours des problèmes. Alors, qu'est-ce que ANSER est en train de prévoir dans son projet pour éviter qu'il y ait des morts causées par le courant?
Nous apportons le courant là où il n'y a jamais été. Beaucoup de nos populations ne sont pas habituées à cette utilisation. Nous impliquons la population dans les échanges de manière à la prévenir, à la former et à la préparer à l'utilisation de ce courant. Et ce sont des contacts qui restent permanents avant d'installer le projet, pendant les travaux de construction de la centrale et même après lorsque la centrale sera mise en fonctionnement pour prévenir tout ce qui peut y avoir comme danger.
Monsieur Alexis Moulomba Mobadiate, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
C'est aussi par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal parlé de ce matin. Merci de nous avoir suivis.